Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Nathalie Bonello-Palo. Docteur Bonello-Palo, bonjour.
Bonjour.
Docteur Bonello-Palo, vous êtes généticien, praticien hospitalier au sein du service de génétique médicale de l'hôpital de la Timone à Marseille. Et vous travaillez en étroite collaboration avec le centre de référence des maladies neuromusculaires, PACA-Rhône-Alpes, coordonné par le professeur Attarian. Alors, docteur Bonello-Palo, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth ?
Alors, je vais d'abord vous dire pourquoi cette maladie s'appelle la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est deux neurologues français, donc c'est le docteur Charcot et son élève, le docteur Marie, qui en 1886 ont fait la première description d'un phénotype de patient qui avait une atrophie musculaire péronnière progressive. Et la même année, en Angleterre, il y a un docteur, le docteur Tooth, qui a fait la même description. Du coup, elle a été nommée la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Alors en fait, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, maintenant à l'heure actuelle, c'est un nom qui va regrouper toutes les neuropathies périphériques héréditaires, qu'elles soient sensitives et motrices, ou sensitives pures, ou motrices pures. C'est un terme qui a vraiment été élargi. Mais comme on le verra après, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, c'est une neuropathie périphérique héréditaire, sensitive et motrice, dans sa forme la plus courante. Alors, si vous voulez, je vous parle des symptômes de la maladie.
Bien sûr.
C'est une neuropathie qui est périphérique, comme je vous l'ai dit, qui est longueur dépendante. C'est-à-dire que plus les nerfs sont longs, plus elle va atteindre ses nerfs en premier. Donc, du coup, forcément, elle va toucher les pieds en premier. On parle de neuropathie périphérique héréditaire distale. Donc, avec une atteinte des pieds en premier, au niveau du déficit moteur, on notera donc une fatigabilité importante à la marche, des crampes, des douleurs neuropathiques. C'est des patients qui vont avoir une histoire de chute fréquente, d'entorse à répétition dans l'enfance, des patients qui vont être mauvais en sport, étiquetés mauvais à l'école, quoi. Et en fait, au niveau de leur phénotype, on va avoir un aspect de, on parle de mollet en coque, parce qu'on a vraiment cette atrophie musculaire qui commence en distalité et qui remonte progressivement au niveau des jambes. On peut avoir une atteinte des membres supérieurs, mais qui n'est pas toujours présente. Et pareil, là, ça va commencer en distalité, donc avec une atteinte des mains. Et dans les formes plus sévères, au niveau des mains et des pieds, on peut avoir des rétractions des tendons, qui font qu'au niveau des pieds, on va avoir la formation de déformations osseuses secondaires avec la formation de pieds creux. Et des orteils en marteau qui vont parfois nécessiter le port de chaussures orthopédiques et dans les cas les plus sévères, de la chirurgie orthopédique. Au niveau des mains, surtout pour les formes jeunes, chez les enfants, en fait, la rétraction des tendons va leur empêcher donc la préhension des stylos, la prise de stylos. Et donc, pour la scolarité, ça entraîne des difficultés. Ça, c'était vraiment l'atteinte au niveau des nerfs moteurs. Au niveau des nerfs sensitifs, donc dans les formes mixtes, on a vraiment une atteinte des nerfs moteurs et des nerfs sensitifs. Au niveau des nerfs sensitifs, donc pareil, on va avoir une atteinte en distalité. On appelle ça en gants et en chaussettes, puisque ça touche toujours donc les mains et les pieds. Et on va avoir une diminution de la sensibilité, en fait, ces personnes. On parle d'hypopalesthésie, d'une diminution de la sensibilité donc au niveau des mains et des pieds, qui peut entraîner, donc c'est des patients qui vont parfois avoir des ulcérations dans les formes les plus sévères au niveau des pieds, des maux perforants plantaires qui vont avoir des problèmes de cicatrisation également. Sinon, on a un des autres signes qui est commun à ce phénotype classique, c'est l'aréflexie tendineuse. Et cette aréflexie tendineuse, elle apparaît donc toujours en distalité, donc elle va toucher d'abord les achilléens et puis elle va remonter progressivement au niveau des rotuliens. Ça, c'est un phénotype classique et on peut avoir soit une atteinte prépondérante au niveau moteur, soit au niveau sensitif et décrire différentes formes dont la sévérité peut être très variable, donc avec des formes qui apparaissent dès l'enfance et des formes qui apparaissent chez l'adulte.
Et en termes de fréquence et de population touchée, qu'en est-il ?
Alors la fréquence, en fait, elle a été évaluée il y a longtemps. On prend tous comme référence un article qui est paru en 1972 ou 14, je ne sais plus exactement, et qui dit que c'est une personne sur 2500. Alors là, à l'heure actuelle, on essaye de justement remettre à jour cette étude épidémiologique, en fait, parce que ça ferait à peu près 30 000 personnes en France. On pense qu'il y en a un peu plus. Du coup, justement, on essaye de remettre à jour ces chiffres. En ce qui concerne les populations touchées, en fait, ça touche toutes les populations parce que dans cette maladie, en fait, on a toutes les formes de transmission génétique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des formes de transmission autosomique dominante, récessive ou liée à l'X. Donc, ça peut toucher des populations consanguines comme des populations non consanguines. Et il y a beaucoup de formes aussi qu'on appelle de novo, donc avec une néomutation, une mutation qui est survenue donc sur une génération en particulier.
Et maintenant, si on revient un petit peu à la clinique, quels sont les principaux signes d'alerte qui doivent faire évoquer une maladie de Charcot-Marie-Tooth ?
Les patients, en fait, lorsqu'ils se plaignent donc surtout d'une gêne à la marche, avec un accrochage des pieds, des troubles de l'équilibre, et aussi la présence de ces pieds creux hein, qui peuvent être très invalidants, qui peuvent nécessiter, je vous l'ai dit, des portes de chaussures orthopédiques ou de la chirurgie, et donc ils vont consulter un neurologue pour ces problèmes de marche essentiellement.
Et face à une suspicion forte de maladie de Charcot-Marie-Tooth, quel type d'exploration moléculaire effectuer pour confirmer le diagnostic ?
Alors en fait, donc avec la filière Finemus, tous les laboratoires qui font ce diagnostic en France, on a 6 laboratoires, on se regroupe, on essaye d'harmoniser nos pratiques et donc on a mis en place une stratégie de diagnostic moléculaire. En premier lieu, on recherche en fait le défaut qui est le plus fréquent, le défaut moléculaire qui est une duplication du gène PMP22 et qui est responsable d'à peu près 60% de toutes les formes de la maladie Charcot-Marie-Tooth. Et donc c'est un premier screening qui se fait donc de façon en routine. Et par contre, lorsqu'on ne trouve pas ce défaut moléculaire, et ben là en fait, on fait une analyse de séquençage haut débit. Et cette analyse de séquençage haut débit, on s'est mis d'accord sur une liste de gènes. Alors, bon, il y a plus de 100 gènes actuellement qui peuvent entraîner ce phénotype, hein. Plus de mutations de 100 gènes. Donc, en fait, on fait des analyses NGS sur une analyse. On a l'analyse de 100 gènes d'un seul coup et on peut rendre le diagnostic moléculaire.
Alors, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, c'est une maladie génétique, vous l'avez dit. Quelle est la place du diagnostic génétique auprès des patients et de leur famille ?
Alors moi, je trouve que c'est une place très importante parce que quand on a son diagnostic moléculaire, et ben forcément, on a le nom de sa maladie. On appartient donc à un groupe de patients et vous le savez déjà, donc il y a une association en France qui est très bien représentée, qui est l'association CNT France. Et ça permet donc d'avoir une aide au quotidien, mais aussi d'être acteur un petit peu de sa maladie et d'éviter donc l'errance diagnostique qui pousse les patients lorsqu'ils n'ont pas de diagnostic moléculaire établi à essayer de trouver la cause de leur maladie. Ensuite aussi, ça nous permet de voir un mode de transmission de la maladie puisqu'on sait qu'on connaît beaucoup de mutations dans les différents gènes. Donc, je vous ai dit qu'il y en avait plus de 100, mais il y a des gènes qui sont responsables de formes de transmission autosomique dominante, d'autres récessives, d'autres liées à l'X. Et donc, ça nous permet de donner un conseil génétique. Et donc ça, c'est quand même très important au sein des familles et surtout chez les patients qui veulent des enfants. Ça permet dans des cas en fait de compliqués de pouvoir proposer le diagnostic prénatal dans certains cas. Et aussi en fait, ça permet de constituer des groupes de patients avec le même défaut moléculaire. Ces patients-là, ils peuvent ensuite être sélectionnés pour des essais thérapeutiques. Il y a plusieurs essais thérapeutiques en cours et ça, c'est un réel espoir dans les maladies génétiques à l'heure actuelle.
Eh bien, merci mille fois, docteur Bonello-Palo, de nous avoir éclairé sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.